Il est 9h41, l'instant M, c'est reparti pour une nouvelle semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Hervé Gattegno a été nommé voici 7 mois à la tête du journal du dimanche, bien décidé à remettre le quotidien du 7e jour dans le match politique du week-end. Dans celui de l'enquête aussi, de la révélation, ça tombe bien, l'actualité ne manque ni de remous, ni d'un côté, ni de l'autre. Où se situe désormais le JDD politiquement? Quel bilan tiré de cette semaine où plus que jamais un candidat à la présidentielle s'est dit attaqué par la presse et où la presse s'est faite attaquer comme jamais par un candidat à la présidentielle? Bonjour Hervé Gattegno.
Bonjour.
Et bonjour à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. On se retrouve tous évidemment sur Twitter si vous le souhaitez. Hashtag Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Voilà, alors un petit peu d'actu aujourd'hui, 13 février, peut-être l'ignorez-vous, c'est la journée mondiale de la radio, sous le sigle de l'UNESCO, le saviez-vous? Saviez-vous que la radio est le média mobile par excellence, seul capable de briser l'isolement des populations vulnérables? C'est le premier média que les ONG mettent en place en cas de catastrophe humanitaire. C'est le média utilisé dans les camps de réfugiés pour diffuser l'information pratique, les messages sanitaires, mais surtout pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver, de se donner des nouvelles. La radio est aussi un puissant outil de développement pour les populations rurales et faiblement lettrées, nous explique l'UNESCO sur son site. Focus sur les clubs d'écoute communautaires en Afrique, par exemple, des programmes radiophoniques consacrés entre autres à l'éducation des filles. Écoutez, le saviez-vous, par un village réuni tout entier qui provoque la discussion entre les générations. Plus d'infos, plus de projets à consulter sur le site de l'UNESCO.
Cette petite faute de main, oh là, ça peut aller très très vite. Maitland en contre pour les Écossais. Le retour intérieur, la bonne défense de Lopez et de Serin.
Alors voilà, après le football américain, le rugby français, pour la première fois, Twitter retransmet en direct 4 des matchs de l'équipe de France du tournoi des Six Nations. Et ce, suite à un accord avec France Télévisions, ça a commencé hier avec France-Écosse et ça marchait très très bien. Partout dans le monde, le réseau social obtient la retransmission d'événements sportifs en live. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que Twitter est en train de devenir un acteur à part entière de la télévision en direct et qu'à terme, peut-être, Twitter sera la télévision.
Un camion régie de RTL, on l'a dit, a été incendié. À ce propos, RTL condamne cet acte de violence qui a mis en danger la vie de notre journaliste et de notre technicien et qui vise à nous empêcher de faire notre métier en toute indépendance. La direction d'RTL tient à affirmer qu'elle ne cédera à aucune forme d'intimidation et continuera d'envoyer des journalistes et techniciens là où l'actualité le nécessite.
Protestation contre les violences policières. Samedi, le camion régie de nos confrères d'RTL, vous l'avez entendu, a brûlé à Bobigny. Celui de Europe 1, pris également pour cible, caillassé. Dans la même manifestation, hier, un journaliste de BFM TV agressé à Argenteuil. Alors la photo du camion RTL brûlant fait l'ouverture de votre page, hein, Hervé Gattegno, consacrée à cette manifestation qui a tourné mal, qui a dégénéré. Commentaire de votre part?
Mais on sent une agressivité contre les médias, ça fait longtemps. Tout le monde ne donne pas forcément le bon exemple, y compris parfois les politiques eux-mêmes. Il y a une agressivité qui existe à l'égard de tout ce qui ressemble de près ou de loin à des élites. Les médias, à tort ou à raison, en font partie. Ils sont considérés comme une partie des élites, comme la voix des élites. Les journalistes essayent de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, mais nous sommes nous-mêmes parfois conscients que ce que nous relayons n'est pas forcément le point de vue qu'ont les gens sur le terrain. C'est notamment le cas dans des banlieues comme celles qui sont en difficulté et en trouble aujourd'hui. Donc c'est un décalage
que
nous devons
assumer.
Parce
que ça fait plusieurs années que ça se produit chaque fois qu'il peut y avoir une émeute ou des troubles en banlieue. Et en même temps, on l'a peut-être oublié ce matin, mais on sort d'une année entière de manifs contre la loi travail où il s'est passé exactement la même chose partout en France. C'est-à-dire des journalistes de grands médias institués pris par cible par les manifestants.
Oui, parce que je vous le dis, les médias sont considérés à tort, selon moi, comme la voix des élites de ce pays. Les journalistes qui sont sur ces terrains-là, comme sur d'autres, comme sur des terrains de guerre, comme à l'étranger pour rendre compte de crises politiques très graves, les journalistes font leur travail, ils sont là pour montrer, pour donner à entendre ce qui se passe.
Et pendant les manifs contre la loi travail, on a bien remarqué que tous les journalistes n'étaient pas pris pour cible, qu'il y avait tout un tas de médias alternatifs qui, au contraire, arrivaient parfaitement à se fondre dans la masse, à recueillir des témoignages, à faire parler les gens, à les prendre en photo, à les filmer, alors que là où les caméras de chaînes d'info se faisaient instantanément bousculer.
Oui, d'abord, les caméras de chaînes d'info se font plus facilement repérer que des journalistes qui ont un équipement beaucoup plus discret, beaucoup plus mobile. Bon, voilà, c'est la loi du genre. Les journalistes savent...
C'est devenu la loi du genre.
Oui, mais ça l'est depuis longtemps. Mm-hmm. Mais souvent, ça a été sur des terrains de guerre ou dans des dictatures que les journalistes étaient pris à partie de cette façon. Aujourd'hui, c'est un peu partout, c'est tout le temps. Ça ajoute à la difficulté du métier. Pour autant, il faut pas y renoncer. Simplement, je pense que les journalistes doivent avoir bien en tête que effectivement, ils doivent être une voix sincère. Ils doivent donner la parole à tout le monde, et même quand c'est très difficile, et ne pas relayer des points de vue qui seraient trop univoques, trop partiaux. Ça peut être le cas aussi en banlieue. Vous savez, quelqu'un qui n'irait interviewer que des jeunes de banlieue dans des manifestations, dans des violences comme celles qu'on a vues ces derniers jours, ne reflèterait pas non plus l'entièreté de la réalité.
Bien, bien, bien. Point de vue univoque et partialité, on va en parler. Où est le JDD ? Alors Hervé Gattegnaud, je l'ai dit, vous avez été nommé au mois de juin à la tête de la rédaction du journal du dimanche. Vous avez bouclé samedi, vous êtes paru hier au terme d'une semaine très intense en matière d'actualité politique mais également médiatique. Alors la presse hebdomadaire s'est clairement fracturée sur la question Fillon, en tout cas c'est ce qu'il a semblé cette semaine. L'Obs est d'un seul coup sorti de sa tiédeur, je vous montre la couve pour ceux qui nous regardent en vidéo, le Tartuffe, pendant que Le Point, lui, qui titrait il y a peu l'incroyable monsieur Fillon, reconnaît certes qu'il a fauté mais puis publier un portrait toujours flatteur, dévoile les coulisses de son opération de survie et analyse ses arguments de défense. Où se situe le JDD, Hervé Gattegnaud ?
Sur l'information. Non mais vous vous attendiez à cette réponse évidemment, oui. mais quelle autre réponse pourrais-je donner ? Nous n'avons pas de ligne politique, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Est-ce que nous sommes pour ou contre François Fillon ? Nous sommes...
C'est pas pour ou contre François lecteurs. Fillon, vous avez une ligne éditoriale et donc vous avez un ancrage politique, c'est bien normal.
Notre ligne éditoriale sur les affaires, c'est de les suivre, de les couvrir avec le plus grand respect possible.
Je ne vous parle pas des affaires, je vous parle de votre ancrage politique.
Vous voulez que je vous dise si nous roulons pour François Fillon?
Non, si vous êtes un journal de gauche, de droite, de centre-gauche, de centre-droite, si vous êtes un journal d'obédience libérale, vous avez une ligne éditoriale tout simplement.
Je crois que je vous avais dit ça il y a quelques mois quand j'étais venu vous voir. Moi, je ne sais pas exactement quelle est la ligne du journal sur le plan purement politique. Mm-hmm. Je pense que c'est un journal d'information généraliste de qualité qui est européen. Nous avons organisé il y a quelques mois une grande journée, une sorte de colloque sur l'Europe qui s'appelait le IDE avec des personnalités de droite et de gauche. Donc nous défendons une ligne qui est favorable à la construction européenne. Nous sommes un journal plutôt modéré, c'est-à-dire que nous n'adhérons ni aux idées de la droite extrême ni aux idées de la gauche extrême. Globalement, nous sommes un journal pluraliste, nous donnons la parole à tout le monde et vous l'aurez remarqué en nous lisant, nous faisons extrêmement peu d'éditoriaux politiques. Il n'y a pas de prise de position politique le week-end dans le journal
du dimanche. Et très peu de une avec des figures de gauche également.
Ah bon ?
Oui.
Ah non, ça je...
Non, récemment, non ?
Ça je crois pas, non,
ah
non.
Ah bon,
je,
d'accord.
Non, je crois pas qu'on puisse dire ça. On a fait beaucoup de une avec des personnalités de gauche, notamment pendant la primaire de la gauche, de nombreuses unes avec le Premier ministre Manuel Valls, avec Bernard Cazeneuve qui nous a donné sa seule interview de Premier ministre. Et cette semaine avec Emmanuel Macron, qui, je le crois, est plutôt une personnalité de gauche.
Vous avez une vision bien particulière de la gauche, c'est ce que j'allais dire. Donc, qui va d'Emmanuel Macron
une personnalité
à
de gauche.
Manuel Valls.
À lui
alors,
de le dire.
Alors, voici la une donc du JDD. Vous titrez au-dessus de la photo d'Emmanuel Macron, l'argent de Macron, son patrimoine, ses revenus, les fonds de sa campagne, le candidat joue la transparence. Vous, Hervé Gattegnaud, vous avez titré comme ça. Vous, j'ai retrouvé vos anciens éditos de l'époque où vous étiez au Point. Et je vous lis, Hervé Gattegnaud, le patrimoine des ministres, on s'en fout, point d'exclamation. Alors ?
Bah, là, il ne s'agit pas du patrimoine d'un ministre, il s'agit du patrimoine d'un candidat à l'élection présidentielle. Les époques changent. L'opinion évolue. Non, moi, je n'ai pas changé. Moi, je trouve qu'il y a des dérives préoccupantes dans cette exigence d'hyper-transparence qui gagne la société française. Pour autant,
parce que vous titrez sur la transparence, justement.
Pour autant, je ne suis pas aveugle. Je dirige un journal. Nous sommes en campagne présidentielle. Il y a eu les affaires que nous savons et auxquelles vous faisiez référence à l'instant. Je pense que nos lecteurs sont intéressés de savoir, s'agissant particulièrement d'Emmanuel Macron, dont on sait qu'il n'a pas eu un parcours rectiligne. On sait qu'il a été, il est passé par la très haute administration. Ensuite, il était dans une banque d'affaires. Il se dit qu'il y a gagné beaucoup d'argent en très peu de temps. Voilà, je pense qu'il était utile et même probablement indispensable d'apporter toutes ces précisions. C'est de cette façon d'ailleurs que nous avons discuté avec l'entourage du candidat. Quand nous disons le candidat joue la transparence, c'est exact, du moins je l'espère pour lui. J'espère qu'il ne nous a rien caché parce que sinon ça finira par sortir tôt ou tard. En tout cas, ils ont fait cet effort, ils nous ont mis à disposition beaucoup d'informations et par ailleurs, pour être tout à fait sincère avec vous, nous avons également fait nos propres recherches, nous avons enquêté, nous avons recoupé le plus grand nombre possible des informations
qu'ils
nous ont
données. Alors pourquoi vous méfiez-vous de la transparence ?
Parce que je trouve que ça va trop loin. Je pense que nous sommes, dans toutes les démocraties aujourd'hui, nous sommes menacés par un danger qui est de se focaliser sur des éléments qui sont à mi-chemin entre la vie privée et la vie publique et parfois carrément de l'autre côté de la ligne privée. Il y a une volonté de tout savoir sur les hommes publics et moi je crois que cette volonté n'est pas saine. Je pense qu'il ne faut pas oublier, surtout dans une campagne présidentielle, que les critères principaux pour un homme d'État ne sont pas seulement la dimension de son patrimoine, mais aussi la dimension de ses compétences, la dimension de sa sincérité. Et ça, ça ne se mesure pas que à l'épaisseur de son compte en banque ou au caractère plus ou moins lisse de sa vie privée.
On va y revenir. François Fillon s'est adressé la semaine dernière à 250 journalistes.
Ce n'est pas le tribunal médiatique qui me jugera. 10 jours de lynchage médiatique. 10 jours pendant lesquels seule l'accusation a eu la parole. Oui, mon épouse était au courant, mon épouse est ma collaboratrice. Lorsqu'elle a fait cette déclaration, qui a été reprise dans une émission à charge, une campagne de presse d'une violence inouïe.
Est-ce que vous avez menti au JT de TF1 et si oui, pourquoi?
Vous êtes de Mediapart, c'est ça? Voilà. Moi, je n'ai jamais eu de redressement fiscal, je vous le dis au passage. Lynché, assassiné politiquement, comme finalement... Vous l'avez fait. Pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. Que ça pose même un problème démocratique. Et ma conviction, c'est que les Français sont tout doucement en train de s'en rendre compte. Et que vous en avez un peu trop fait.
Les journalistes en ont-ils un peu trop fait, Hervé Gattegno ?
Non, je ne crois pas que les journalistes en aient trop fait sur l'affaire Fillon. C'est un journal qui a révélé cette affaire, c'est le Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné a fait son travail en le faisant. Les médias ont fait leur travail en suivant cette affaire, d'autant que dans l'intervalle, la justice avait fait son travail en ouvrant une enquête préliminaire. François Fillon se défend. Il a raison de se défendre et je pense qu'il faut être sensible au moins à un point de son argumentaire, c'est cette notion de tribunal médiatique.
Ah oui ?
Oui, mais moi je ne suis pas contre le tribunal médiatique, c'est une question de terme, c'est une formulation. Mais un tribunal, c'est un endroit où chacun a le droit de se faire entendre, l'accusation et la défense. Et donc, M. Fillon a le droit de se défendre s'il considère qu'il est devant une forme de tribunal médiatique. Il ne faudrait pas qu'on puisse entendre que l'accusation. Ça n'est pas le cas dans un tribunal.
François Fillon se défend, je voudrais dire néanmoins que
François Fillon a oublié, lorsqu'il dit que les médias n'ont travaillé qu'à charge, qu'il nous a donné sa seule interview au Journal du Dimanche. Le Journal du Dimanche a beaucoup insisté pour obtenir cette interview parce que nous voulions entendre la version de François Fillon.
Alors justement, François Fillon se défend, mais en se défendant, il attaque la presse comme jamais. Vous consacrez une page entière, la page 8, aux suites de l'affaire Fillon. Pas un mot sur le fait que ce candidat attaque la presse. Pas un mot non plus sur les termes de lapidation médiatique, terrorisme médiatique, détournement d'opinion publique employé par ses soutiens. C'est pas un sujet pour vous, ça ?
Si, c'est un sujet, mais nous en avions parlé, nous avions mentionné ces éléments de sa défense dans des articles précédents. Là, cette semaine, nous avons fait le choix de publier précisément parce que c'est sa défense et nous ne portons pas de jugement sur sa défense, sans mauvais jeu de mots. Nous avons fait le choix de publier une tribune qui nous a été envoyée, un court texte par les présidents des groupes parlementaires de droite et du centre pour défendre François Fillon, pour prendre à partie la justice et d'une certaine façon la presse aussi.
Absolument, qui s'insurge contre l'émotion et l'approximation médiatique.
Je vous l'ai dit, nous avons à la fois suivi l'enquête, et il y a encore cette semaine un article finalement qui dresse un constat assez sévère pour François Fillon, puisque notre article dit que même son entourage ne croit plus à l'hypothèse d'un classement sans suite. Et d'un autre côté, nous donnons la parole à la défense, François Fillon lui-même, qui n'a parlé qu'à notre envoyé spécial à la Réunion, Christine Olivier. Il est la seule journaliste.
Et qui dit à votre envoyé spécial, je ne fais pas siffler la presse, je ne me le pénisse pas. C'est exactement le contraire qui s'est passé dans son meeting, mais ça, vous vous gardez bien de le rappeler.
Oh, si on veut tout à fait précis, c'est Jean-Pierre Raffarin qui a fait siffler la presse. J'ai interprété, moi, cette phrase, lorsque je l'ai lue dans l'article de Christine Olivier, comme une sorte de rectificatif de ce qui s'était passé avec Jean-Pierre Raffarin, qui, je crois, lui-même, en est un peu malheureux. J'ai l'impression que c'est un incident qui n'était pas complètement volontaire de la part de Jean-Pierre Raffarin. Les gens qui ont sifflé, eux, ils le font volontairement et on sent bien depuis 10 jours une focalisation contre la presse dans les réunions publiques de François Fillon. Malheureusement, je dois dire que ce n'est pas le seul candidat dans les réunions duquel la presse est sifflée.
Alors, on a vu que vous n'étiez pas pour toute la transparence en politique. Voilà. C'est une vraie question. Êtes-vous prompt, Hervé Gattegno, à défendre et à protéger ceux qui font sortir au grand jour des éléments d'information sensible? Parce que, par ailleurs, je vous ai déjà lu, à plusieurs reprises, dans des papiers plus anciens, dire que vous étiez très favorable à une directive européenne sur le secret des affaires, très défavorable à une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est, pour vous, une forme de libéralisme qui touche aussi au droit et à l'encadrement de la presse?
Non, je ne sais pas ce que vous appelez l'encadrement de la presse. Moi, je suis pour le moins d'encadrement de la presse possible. Mais néanmoins, il y a des lois que la presse doit respecter. Et les journalistes qui font des enquêtes, j'en sais quelque chose, car je l'ai fait pendant très longtemps, sont régulièrement traduits devant la justice pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas favorable à une société de l'hyper-transparence, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je me méfie beaucoup d'une société dans laquelle on vénérerait davantage ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte et qui ne sont parfois, je dis bien parfois, rien d'autre que des délateurs par rapport à des gens qui, eux, respectent des secrets. Vous savez, dans une démocratie, il y a besoin de secrets. On l'a vu, tout le monde s'en est indigné lorsque François Hollande, de façon très imprudente, a divulgué des morceaux de secrets d'État dans un livre qui a fait beaucoup parler. Je crois que cette surprise et ce choc étaient légitimes. Il y a des secrets qu'une démocratie doit garder, sans quoi elle
n'est
plus
entreprise
tout à fait
doit garder.
Oui, et qu'une entreprise doit garder parce que ce sont ses affaires et c'est son métier. On sait bien que tout ne peut pas être dit, pas même à France Inter, pas même au journal du dimanche. On ne peut pas tout divulguer sur la place publique. Et je vous fais observer qu'il y a un secret auquel je suis très attaché. Oui. C'est le secret des sources des journalistes. C'est un secret dont ni vous ni moi ne dirions qu'il est illégitime. Donc vous voyez bien qu'il y a des secrets légitimes.
Merci beaucoup Hervé Gattegno. Et les secrets légitimes, c'était très éclairant. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sana de Villers. Alors ce matin, je vous propose une émission consacrée au lien entre notre cerveau et notre intestin, considéré par de nombreux chercheurs et médecins comme un second cerveau. Vous le verrez ce matin, un second cerveau impliqué dans nos émotions, notre humeur, nos réactions au stress, dans notre santé mentale et aussi dans la fatigue chronique. 01 45 24 7000.